Radio Campus Angers, il est l'heure d'ouvrir les hydrophones, l'heure d'entrer dans le sous-marin. Il paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune. Bonsoir. Le nôtre navigue dans les eaux plus ou moins troubles de l'actualité du lundi au vendredi, excepté le mercredi, jour des enfants, pendant lequel nous devons nous reposer. Nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien ne nous échappe. Ici Tiffen, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde. Et avec moi ce soir, au poste de manœuvre, Baptiste, Victor, Anne-Marie, Charlotte et Julien. Ce soir, au sommaire du sous-marin, vous entendrez Céline Goria de la compagnie Entrée Publique, la compagnie qui est à l'origine du théâtre en bois, installée place de la Fraternité depuis octobre et jusqu'en avril. Elle nous expliquera l'origine et le but de ce concept dans une interview enregistrée vendredi. Notez aussi que 2 places sont à gagner pour le spectacle de votre choix au théâtre en bois. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 19h30. Anne-Marie, notre défricheuse éco, nous expliquera le concept de panier de consommation, c'est ça ?
Exactement.
Ce sera vers 19h30. Ils sont en forme, comme d'habitude, à croire que le sport, ça garde vraiment en forme. Charlotte et Julien nous feront comme chaque lundi leur journal des sports, n'est-ce pas Charlotte ?
Mais oui, parce qu'on aime le sport.
Eh oui, et même si on a du mal à le comprendre parfois. Et comme chaque jour en fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de cette soirée en juin et la bulle sonore. Mais tout de suite, on accueille le duo infernal. L'un est le sel, l'autre le poivre. L'un est Tintin, l'autre est Milou. Bref, ils sont inséparables. Baptiste et Victor sont en studio ce soir et on commence par Victor qui nous parle d'un revenant.
Oui, ça y est, c'est fini pour Dominique de Villepin, enfin, du moins pour sa bibliothèque. Le poète aux cheveux blancs immaculés et à la dentition parfaite, digne d'une pub Colgate White Now, faisant jalouser Alain Juppé, son crâne en peau de fesse, ainsi que le dentiste de Mélenchon, oui, Dominique s'est séparé de sa bibliothèque de collection jeudi dernier chez Druot. Une vente aux enchères mêlant de grands classiques de la littérature du début du XXe siècle, comme L'homme révolté de Camus, dédicace à Jean-Paul Sartre, les mémoires de Gaulle, mais aussi des documents exceptionnels, comme l'affiche de mai 68, La Chienlit, c'est lui, ou bien la thèse de médecine de Louis-Ferdinand Céline. Alors, on savait que Dominique de Villepin était un lettré qui vivait pour le verbe, on l'a encore vu récemment avec le film Quai d'Orsay, moquant amicalement ses élans spontanés de poète des affaires étrangères. On sait maintenant que c'est un fin collectionneur. Évidemment, sur le plan médiatique, ça n'intéresse plus grand monde, ce genre de passion. On imagine bien que la vente de la collection de Rolex de Sarkozy ou bien de sextoy de DSK aurait suscité davantage l'intérêt des journalistes et du peuple français. Qu'importe. Dominique de Villepin tourne la page pour de nouvelles aventures, comme il le dit lui-même. Cette vente lui a tout de même rapporté près de 3 millions d'euros. La question qui se pose dorénavant est la suivante. Que va-t-il faire d'une somme pareille ? Un riad à Marrakech ? Une réouverture du procès Clearstream ? Ou alors financer sa campagne pour 2017 ? À la lecture du sondage Le Quotidien, du Parisien, paru la semaine dernière, on ne lui recommande pas une nouvelle tentative au présidentiel. En effet, il semble que les Français aient oublié qu'il est l'un des rares premiers ministres avec Jospin à avoir réduit la dette publique ou encore son discours contre l'interventionnisme tout azimut des Américains en Irak. Les Français sont des veaux, disait De Gaulle. En attendant, les veaux préfèrent un retour de Sarkozy. Et curieusement, ce ne sont pas les seuls. Villepin aussi se dit prêt à soutenir celui qui l'avait menacé de le terminer sur un croc de bûcher. C'est bien ce qu'il a confié à la radio-télévision suisse lundi 18 novembre. Que les Villepinistes se rassurent, hein, il ferait cela dans une dimension gaullienne pour l'intérêt général. En attendant, on ne le voit plus, Dominique, à croire qu'il joue au roi du silence avec son frère ennemi Sarkozy. Autrefois, France Gall chantait « Babacar, où es-tu ?», c'est le même refrain que certains partisans du centre-droit chantent. Les déçus de l'UMP, de l'UDI et du Modem. Le Modem, c'est le parti où les militants sont eux-mêmes partis. Évidemment, n'exagérons rien, hein. Galouzeau de Villepin apparaît tout de même parfois dans le petit écran, quand il s'agit de parler de la politique étrangère de Fabius O'Malley, ou bien de sa vente de bibliothèque politique. Néanmoins, cette distance des médias et du monde politique français s'explique par sa carrière de businessman. Avocat pour l'émir du Qatar, conseiller économique d'une agence de crédit chinois, ou encore sa carrière de conférencier à l'étranger. Où en est donc celui qui était admiré pour son discours de l'ONU et conspué par la jeunesse à cause de son CPE ? Dans tous les cas, ce n'est pas Dominique de Villepin qui laissera glisser un indice sur cette question. L'homme qui faisait son footing à la boule, humiliant Sarkozy caché derrière ses persoles noires, serait-il en train de courir après la politique une fois de plus ? Nul le sait vraiment, jusqu'à l'intéressé lui-même qui est lu de la question en disant qu'il aime vivre sa vie comme un roman. En attendant, si vous voulez le retrouver, allez voir le film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, où Thierry Lhermitte porte l'habit du ministre des Affaires étrangères. Une comédie drôle, avec un brin de gesticulation en trop de la part de Lhermitte, qui s'enferme dans du Louis de Finesse, mais avec une authenticité dans les répliques. Ce film rappellera que celui qui manie la langue de Molière pour la diplomatie française parle comme un charretier dans les cabinets. C'est d'ailleurs ce qui avait plu à Chirac l'entendant dire en 1994 « Les baladuriens, on va les baiser avec du gravier ».
Et ce soir, Baptiste, toi tu seras mélancolique comme ça parce que ça fait 32 ans, un mois et 3 jours que Georges Brassens est mort.
Et oui, il y a à peu près 32 ans, s'éteignait à Saint-Gély-du-Fesque l'un des derniers grands compositeurs-interprètes, emmenant avec lui une partie considérable des mérites de la chanson française. Georges Brassens, orfèvre du langage, était de ces hommes talentueux qui savaient garder de la permanence dans leur style, de la fidélité envers leurs convictions, comme à leur incertitude. Mais surtout, il y avait l'univers planturé de ses chansons, à la fois populaire et saisi de référence, car comme disait le poète, on n'entre pas dans mes chansons comme dans un moulin. Avec un style assuré, le coquin parvenait à mêler dans un même vers construction raffinée et tournure populaire, expressions précieuses et mots argotiques. La multitude d'influences dont il se réclamait, aussi bien historique, mythologique que littéraire, prenait vie et ressuscitait parfois même sur fond de rythmes ternaires, cadencés et mélodieux. Le chanteur des Lilas, avec sa magique adéquation des mots, fit connaître à l'homme de la rue Villon, Lamartine, Valéry, Corneille, Hugo et j'en passe. Si les convertis de sa paroisse n'ont de cesse d'écouter et d'étudier les adéquations lexicales du bonhomme déjà placé au pinacle dans son registre, on ne peut pas être certain de la durabilité de sa postérité. L'héritage de l'illustre parviendra-t-il à laisser sa trace dans les générations suivantes ? La passion de la terminologie française, de l'archaïsme, des vieux contes et des grands thèmes parviendra-t-il à percuter les amoureux du néologisme et les adorateurs désabusés du moderne et du nouveau ? Pas sûr du tout. Brassens était décidément à contre-pied de notre époque où tout se veut immédiat et transparent car il était de ces hommes qui savaient se faire tout petit. Amoureux des chats et des fleurs, complètement détachés des attributs habituels des vedettes ordinaires, l'humilité comme pain quotidien et à milieu des actuels égosiers du star system, la mort de Brassens comme celle de Reggiani, Trainé, Brel et Ferré, et il y en a d'autres, annonçaient avec la fin des années 70 le déclin de la grande et majestueuse chanson française. Douloureux à présent de constater à quelle vitesse est parti avec eux les grands textes exaltant les valeurs saines de la culture française. Ainsi, l'amitié, le sens du travail, la culture populaire ont été détournés de notre panier musical par la cupidité, l'arrogance et la vulgarité de la société marchande. Et pourtant, immortel au bois de mon cœur, sans espoir de concurrence, pas bien même déloyal, sa couronne de laurier repose en paix au panthéon des chanteurs.
Ça, c'était la chronique de Baptiste, un petit hommage à Brassens. Allez, pour te faire plaisir, voici voilà la guitare et la moustache, et pour le sens du travail, pauvre Martin.
Merci.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à la main grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
C'est un chalet qui est planté depuis le 12 octobre dernier, place de la Fraternité. Rien à voir avec Soleil d'hiver, le vin chaud ou les marrons, non. Le théâtre en bois est un lieu nomade et donc éphémère là où il passe. En attendant d'avoir une structure pérenne, les habitants du quartier en construction des Hauts de Saint-Aubin ont donc demandé à ce qu'il se pose là jusqu'en avril prochain, au moins. La structure programme chaque semaine des spectacles de théâtre, de la danse, des concerts, des soirées, débats, des projections, de la culture pour tous et toutes les cultures. Avant d'entendre Céline Goria de la compagnie Entrée Publique, la compagnie qui est à l'origine du théâtre en bois, je vous propose en amuse-gueule d'entendre le reportage d'Alice. Elle s'est rendue au théâtre en bois samedi soir pour voir le spectacle Les Fossoyeurs de Juste Milieu Production. Elle en a profité pour poser quelques questions à Dominique Rambeau qui est à l'origine du théâtre en bois.
J'ai pensé que cet objet, cet outil de travail pouvait correspondre à un besoin par rapport à certaines communes, aux communautés de communes qui n'ont pas d'équipement, qui ne peuvent pas investir dans un équipement culturel. J'ai pensé que ça pouvait servir aussi évidemment aux artistes, parce que c'est aujourd'hui un artiste qui n'est pas renommé, ça devient de plus en plus difficile pour lui de trouver une salle pour jouer. Voilà, j'ai pensé que c'est un lieu qui pouvait, toujours par rapport aux petites communes en particulier, redonner un petit peu de vie, être un lieu de rencontre et de social dans certains petits villages qui ont dépéri petit à petit. Voilà, j'observais ça quelquefois, des villages dans lesquels il y avait une vie avant, il n'y a plus maintenant.
Le tas de ton cul qu'elle a dans des sans poil, un trinque, trop. Faire un trinque à mort. Mais des couleurs, pas l'idée. Le bois but, le bois la butte, le bois du secteur but, pas brut, but. Les colis, c'est lesquels? Les caisses, ah, c'est les... Ah, c'est les... Non, c'est là, lesquelles? Les caisses, ben, c'est les telles qu'elles sont. Les caisses, c'est pas celle-là, c'est les caisses, ça c'est Leocraft. Les caissons. Laissez-les quoi, laissez-les. Laissez-les des caisses, des caissons. Laissez les caissons. Cessez de sceller les caissons. Les caissons à sceller, non. Quelles sont les caisses à sceller? Les caisses à sceller sont? La caisse à outils? Donc la caisse à boutons? Laissez-les. Faites-les emballer les délots qui coulent là. Voilà, là, emballer les. Les caisses et les sons. Qu'est-ce qu'il a, c'est des... Là, c'est des cons. Dès qu'on les salit, dès qu'on les scellé, dès qu'on les lève, dès qu'on a, ça c'est les caisses qu'on n'a pas à sceller. Ces cons qui n'ont cesse de sceller des caissons et qui sont des cons, la caisse me casse les... Des colis. Allez. Tadic, le nickel bloc, note. Ni scellé, ni crafté, ni collé, ni calé. Des calamités. Des paquets, là, n'entassez pas ça. Si ça, là, les entassez pas. Si là, là, ça s'affaisse. Ça s'affaisse. Entassez-les. Les paquets s'étalent, que t'empiles ou que t'entasses, tout fait qu'à force accumulée, la pile de dos cul s'affaisse. Trop, trac, trac, la pile de dos cul qui est là, dos cul du con à s'affaisser.
C'était donc un reportage d'Alice et vous avez pu entendre un extrait du spectacle Les Fossoyeurs qui se jouait samedi et hier au Théâtre en bois. À présent, c'est l'heure d'entendre Céline Goria de la compagnie Entrée Publique. La compagnie qui porte le Théâtre en bois, elle a accepté d'enfiler un scaphandrier pour le sous-marin. Elle était dans nos studios vendredi dernier. Bonjour.
Bonjour.
Alors le Théâtre en bois, c'est une structure mobile qui accueille des spectacles et jusqu'à 200 spectateurs, c'est ça ?
Jusqu'à 120, plus exactement.
Alors, avant d'atterrir place de la Fraternité, on va revenir un peu sur l'historique. Il a un peu voyagé, le Théâtre en bois, à Villevêque. Il est resté pendant 5 mois et à Montreuil-Junier ensuite pendant un an. C'est quoi l'origine du projet ?
Alors, à l'origine du projet, il y a surtout un homme, en fait, Dominique Rambeau. Dominique Rambeau, c'est un menuisier charpentier qui est devenu comédien professionnel donc pendant 17 ans et qui avait toujours en tête cette idée un jour de construire un petit peu son lieu de travail entre guillemets pour pouvoir programmer des spectacles de sa compagnie mais aussi accueillir d'autres compagnies. Et en fait, ça fait à peu près 5 ans qu'il travaille sur ce projet, qui a mûri petit à petit dans sa tête. Il a fait pas mal de démarches pour trouver des financeurs. Ça a été assez compliqué. Et en fait, il a surtout rencontré des personnes de la filière bois, donc lors d'un salon de la Maison Bois à Angers. et aussi des compagnons du devoir, en fait. Donc le projet, il a pu avoir lieu grâce à la fois aux compagnons du devoir qui se sont mobilisés pour justement fabriquer ce théâtre. Ce théâtre, c'était le projet, ce qu'on appelle le projet de fin d'études d'un compagnon. Et ensuite, ce compagnon a mobilisé aussi d'autres compagnons en études pour le fabriquer. Donc sans eux, honnêtement, il n'y aurait pas le théâtre aujourd'hui. Et puis également une entreprise qui s'appelle ACB Construction à Étréché, qui nous a prêté son entreprise des week-ends pour qu'on puisse aller le fabriquer.
Ça représente quoi comme investissement ?
Alors, en financier ? Mm-hmm. Alors, pour le construire tel qu'il est aujourd'hui, il faudrait environ 150 000 euros. Mais avec toutes les aides qu'on a pu récupérer, le théâtre, aujourd'hui, la compagnie Entrée Publique, elle a fait un emprunt donc d'environ 50 000 euros pour pouvoir le construire. Parce qu'on a reçu très peu d'aide de subventions publiques, en fait. Donc, il y a surtout un homme et plein de gens autour qui ont permis la réalisation de ce théâtre.
Alors, il ressemble à quoi ce théâtre ? C'est un chalet ?
Ben c'est oui. Quand on le voit à l'extérieur, il est assez sobre. Hein. Il a une bâche rouge, enfin comme une bâche rouge de chapiteau sur le toit. Et oui, ça fait un chalet, un gros cube en bois. Et quand on rentre, souvent les gens sont toujours surpris parce que on s'y sent bien tout de suite. En fait, c'est tout en bois, donc ça fait assez chaleureux. Et il est quand même assez grand puisqu'il fait 210 mètres carrés, donc 12 mètres par 16 mètres. Et en fait, les gens quand ils rentrent, ils font « Ah, mais c'est grand !» Et puis on est bien, il y a un petit coin bar, un petit coin billetterie, il y a un beau plateau de 12 mètres par 8 mètres de profondeur. Donc c'est pareil, les artistes s'y sentent bien, il y a une petite loge derrière, et c'est des conditions de jeu qui sont complètement agréables pour les professionnels.
Alors, je le disais avant, il était à Villevec, puis à Montreuil-Junier. Comment est née l'idée de le faire arriver Place de la Fraternité à Angers?
Alors effectivement, il a été inauguré donc il y a 2 ans à Villevêque, il y est resté donc 5 mois. Il y avait des spectacles tous les week-ends là-bas. Ensuite, on est parti à Montreuil-Junier. On y est resté donc pendant 1 an avec pareil des spectacles tous les week-ends. On a accueilli pour le moment plus de 150 représentations en fait en à peine 2 ans. Une cinquantaine de compagnies ont joué dans le théâtre. Et en fait, il est arrivé dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, suite à une demande un peu des habitants. Il y a un comité de quartier là-bas. Et c'est vrai que le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, c'est un quartier qui sort un petit peu de terre.
Qui est en construction.
Voilà, qui est en construction. Et ce comité de quartier a envie de créer un cœur de village, enfin, qui s'y passe des choses. Et puis, en 2017, a priori, il y aura un équipement culturel qui sera construit là-bas.
Et, de manière définitive.
Voilà, de manière définitive. Et en fait, les habitants n'avaient pas envie que les autres habitants prennent des habitudes par ailleurs et que directement, ils prennent des habitudes au cœur du quartier. Donc, ils avaient envie de mettre en place un lieu. Ils avaient cherché des chapiteaux et il s'avère que c'était au moment où on inaugurait notre théâtre. Donc ils sont venus à notre rencontre et puis ils se sont dit c'est ce qu'il nous faut dans notre quartier, un théâtre itinérant. L'idée ce serait qu'ils reviennent tous les ans pendant comme ça une période de 6 mois jusqu'à ce qu'il y ait ce lieu définitif en fait.
Et pourquoi pendant les mois d'hiver ?
Parce que en fait, au niveau du quartier, pour le moment, comme ils n'ont pas de lieu, ils programment plutôt des choses en extérieur en été. Et justement, l'hiver, il se passait pas forcément beaucoup, beaucoup de choses au niveau culturel. Donc, en fait, on a construit vraiment un projet ensemble avec les habitants de ce comité de quartier, la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Ensemble, on a construit cette programmation, donc avec des spectacles, mais également des soirées débats, des soirées rencontres, et en essayant d'impliquer au maximum les habitants.
C'est un petit côté place du village, en fait.
Oui, voilà, c'est un peu l'idée. Sur cette place de la Fraternité, il y a déjà quelques petits commerces, et l'idée, c'est que les gens s'y retrouvent. Et là, il est super bien situé. Il est juste en face de l'arrêt de tramway. Donc, on voit les gens qui descendent. Ils passent devant. Déjà, ils le voient. Ils commencent à faire un petit peu partie du décor.
Et alors, le comité d'organisation, le comité de quartier qui était derrière le projet, quel recul il a maintenant, quel regard il a? Ça fait un mois, plus d'un mois, un mois et demi, qu'il s'est installé.
Pour le moment, c'est plutôt positif. Il faut encore laisser le temps à ce que les gens prennent leurs habitudes. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde de franchir la porte d'un théâtre. Donc voilà, les retours sont plutôt positifs. Tous les gens qui y sont venus sont vraiment très satisfaits. Et puis comme je disais tout à l'heure, on s'y sent bien dans le théâtre parce qu'il a vraiment un côté chaleureux et tout à fait accessible. Il y a une proximité aussi entre le public et les artistes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les spectacles qui ont été programmés ont rencontré pas mal de succès. Donc on espère que ça va continuer. Et puis que petit à petit, les gens vont avoir, les habitants, le réflexe de se dire « Tiens, ce week-end, qu'est-ce qui se passe au théâtre ?»
Les habitants, et puis peut-être aussi les habitants des autres quartiers. Est-ce que ça commence à drainer des habitants d'autres quartiers que celui des Hauts-de-Saint-Aubin ?
L'idée, effectivement, c'est aussi que les gens du centre-ville d'Angers puissent aussi venir dans ce quartier qui est en pleine création. Oui, la proximité de l'arrêt du tramway, enfin le tramway qui passe juste devant, ça facilite vraiment ces échanges-là. Donc pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport justement aux fréquentations et au nombre de personnes qui sont vraiment du quartier et aux gens qui sont plus du centre-ville. Mais on va faire des petites statistiques d'ici quelques temps. Et pour le moment, on est aussi surtout content parce qu'il y a pas mal de gens du quartier. Parce qu'on n'avait pas non plus envie qu'il y ait que des gens du centre-ville, par exemple.
Alors l'idée, c'est d'ouvrir la culture à tous et à toutes les cultures également. Ouvrir la culture à tous, est-ce que pour l'instant, ça fonctionne ?
Oui, après, c'est jamais évident non plus, en voyant le public, de savoir d'où ils viennent et tout ça. Mais en tout cas, on voit qu'on a des publics... en termes de génération, comme on essaie de proposer la programmation, elle est très diversifiée. Donc les familles, il y a eu des spectacles aussi pour les aînés. Là, il y a eu deux soirées avec la galerie sonore. Donc là, il y avait des familles encore qui venaient écouter le travail que leurs enfants avaient fait avec la galerie sonore. Et on sent qu'il y a une mixité et c'est super chouette.
Est-ce que vous trouvez que la ville d'Angers, la mairie, en fait assez dans cette direction-là, en fait ? Action sociale, action culturelle pour tous les publics et pour les quartiers aussi ?
Après, je ne peux pas juger sur l'ensemble de la ville d'Angers, mais en tout cas, nous, là, on arrive dans un quartier, donc on travaille avec les gens de la maison de quartier. Ça se passe super bien et on voit qu'on a tous le même objectif, c'est qu'il y ait une rencontre entre ces artistes et puis le public. Et pour le moment, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc oui, en ça, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont mises en place, oui.
Céline Goria de la compagnie Entrée Publique. Après la pause musicale et la chronique d'Anne-Marie, vous l'entendrez évoquer la programmation et l'avenir du Théâtre en Bois. Le Théâtre en Bois qui vous offre deux places pour le spectacle de votre choix. Pour cela, il vous suffit d'envoyer un mail à journalisme@radiocampusangers.com. Radio Campus Angers tout attaché, et d'indiquer Théâtre en Bois dans l'objet du mail. Tout de suite, on écoute Von Parias, Someone New.
But
Vous aimeriez enfin comprendre ce que raconte Jean-Yves Courciel à la Bourse de Paris. Vous aimeriez lire Les Échos sans avoir à froncer les sourcils. Nous avons la solution. Elle s'appelle Anne-Marie. Ce soir, elle nous parle du panier de consommation.
Exactement. On approche de Noël, ça y est, déjà deux cases de votre calendrier de l'Avent sont ouvertes. Vous commencez à vous empiffrer de chocolat. Oui, ça sent vraiment l'arrivée de Noël. Alors bien sûr, vous pensez à vos futurs achats pour votre famille et dressez en même temps votre liste au Père Noël. Tout ça est bien beau, mais papa et maman ont-ils vraiment assez de sous dans leur petit panier? Et quant à vous? Eh bien, sachez que le panier de consommation, non, je ne parle pas du panier d'oseille que votre grand-mère prend pour faire son marché tous les samedis, mais bien de l'outil statistique d'observation du marché de la consommation qui étudie l'évolution de la facture moyenne des utilisateurs. Bref, je reprends. Sachez que le panier de consommation des Français est en baisse depuis septembre. D'après l'Institut français qui fait toutes les stats et études économiques officielles, et donc cet institut n'est autre que l'INSEE, la baisse du panier de conso est due à l'augmentation importante des dépenses en énergie qui est de 4,9%.
Et je suppose que c'est en raison du temps hivernal et des températures ultra basses, ce qui fait monter le thermomètre du radiateur.
Exactement. Mais bon, même si les Français ont moins d'argent pour des achats impulsifs ces deux derniers mois, l'INSEE pense qu'à la fin de ce trimestre, en décembre, cela marquera une hausse du panier du consommateur de 0,3%, c'est-à-dire sur vos 100 euros de dépenses habituelles qui vous sont données par vos parents pour le mois de septembre à décembre, eh bien vos parents vous donneront en plus 0,3 centimes. Ok, ça semble pas grand-chose. Mais bon, et selon l'INSEE, il y aura aussi une hausse de 0,3% pour le quatrième trimestre en 2014.
Et cette hausse serait due à quoi ?
Alors l'économiste Hervé Pellerot dit « Il y a tout d'abord ce que l'on appelle les achats d'anticipation, en l'occurrence avant la hausse de la TVA et le début de la fiscalité écologique au 1er janvier. » Bah oui, ça paraît évident. La TVA, c'est le taux de valeur ajoutée qui rassemble différents impôts en un seul pour que ce soit moins compliqué. C'est un taux indirect puisqu'il est subi sur les produits et services consommés par les consommateurs. En fait, l'entreprise qui vous vend un produit ou un service reverse une partie de ce que vous avez payé, l'achat du bien ou du service à l'État. Et dès 2014, les différents taux de TVA vont augmenter sensiblement pour financer le crédit d'impôt de compétitivité des entreprises. Ça aide les entreprises à investir pour innover. Ainsi, la TVA, la plus commune, celle sur les biens et services, qui est de 19,6%, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, passera à 20%. Le taux intermédiaire, qui concerne tout ce qui a trait au logement, est de 7% et s'élèvera à 10% en 2014. En gros, sur vos travaux de rénovation de votre appart, vous n'aurez plus à payer 107 euros, dont 7 euros seront reversés à l'État, mais 110 euros. Enfin, on notera que la TVA appliquée aux produits alimentaires et autres produits de nécessité passera de 5,5% à 5%. Et concernant la fiscalité écologique, sachez que dès janvier, si vous avez l'âme verte ou non, que vous soyez pour ou contre le nucléaire, que vous utilisiez la bicyclette ou votre voiture, l'État s'en fout. Il vous mettra tous dans le même sac parce que vous consommerez des biens ou services qui dégradent notre environnement. Et puis Hervé Pellerot ajoute que la possibilité de débloquer de manière anticipée l'épargne salariale va prendre fin au 31 décembre et peut inciter les ménages à profiter de cette réserve. Dans le cas de phénomènes avantageux temporaires, les gens ont tendance à en profiter au dernier moment, comme on l'a vu, par exemple, pour la prime à la caisse.
Et ça veut dire quoi, épargne salariale ?
Tu sais, c'est la petite prime que touchent les salariés parce qu'ils participent à la bonne marche de leur entreprise, pour qu'ils se sentent un peu concernés par l'avenir de leur entreprise. En gros, fin décembre, c'est jackpot pour les plus chanceux. Ça y est, vous avez reçu vos petits sous de votre entreprise, en plus de votre salaire, tout ça parce que vous avez bien travaillé. Mais c'est si rare que vous avez déjà envie de les dépenser pour vous offrir une petite folie, ou bien pour vous aider à payer la facture, puisque décidément, il fait de plus en plus froid. Pour résumer, le panier de consommation du consommateur va encore augmenter, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez suffisamment de sous pour faire de vos achats de Noël, et vous en aurez encore pour le nouvel an.
Manger de la dinde, du foie gras, boire du champagne et offrir des cadeaux, c'est ça ?
Exactement.
Retour au théâtre en bois avec Céline Goria. Elle évoque la programmation, les tarifs au choix et l'avenir du théâtre.
Alors on va dire un mot quand même sur la programmation. Vous essayez de mélanger tous les genres, vous le disiez tout à l'heure, des soirées débat, voilà, des soirées avec la galerie sonore, des spectacles de théâtre. Là vous avez ramené le programme pour décembre et janvier, alors est-ce que vous pouvez en dire un petit mot? Voilà, comment faites-vous vos choix? Et qu'est-ce que vous nous conseillez aussi pour les 2 mois qui arrivent?
Alors, c'est pas facile de vous conseiller, enfin, parce que les choses qui sont proposées là, c'est que finalement, on les trouve toutes intéressantes, sinon on les programmerait pas. Donc voilà, après, ça dépend des goûts. Il y a l'Ojo qui va venir donc faire un concert. Il y a également, au début janvier, Charlot Trio. C'est un ciné-concert, c'est très original. C'est des violoncelles, 3 violoncelles électriques, en fait. Et donc, ils font la musique devant des films de Charlot. Voilà, il y a des soirées débat. Il y a également des soirées cinéma. Donc, on travaille avec, comme j'expliquais tout à l'heure, on essaie d'impliquer les habitants du quartier. Et avec les EO qui s'est installé donc, juste à côté de nous. On a essayé aussi de les impliquer dans l'organisation, donc ils organisent des soirées cinéma. Donc le 14 janvier, il y a le film Oh Brother qui sera programmé. Il y aura également, d'ici la fin de notre présence en avril, une soirée qui sera vraiment organisée par les étudiants de l'ESEO avec des groupes de musique, voilà.
Est-ce que les habitants du quartier et le comité de quartier participent à l'élaboration de la programmation ou est-ce que c'est votre compagnie Entrée Publique qui l'a fait?
En fait, ça s'est fait conjointement. Nous, il y a des spectacles que nous, on a proposés et il y a des actions qui ont été proposées par la maison de quartier et encore d'autres actions qui ont été proposées par des habitants, par le comité de quartier. Donc voilà, c'est vraiment une programmation qui est faite conjointement. Ça permet justement d'intéresser un public plus large.
Je voulais revenir sur un concept qui est particulier au Théâtre en Bois, c'est le concept de prix à la demande, au choix en fait. Le spectateur choisit le prix qu'il va mettre pour sa soirée, pour son spectacle, et vous dites que c'est pour responsabiliser le spectateur. Est-ce que vous pouvez expliquer cette idée?
En fait, voilà, le tarif, c'est 4, 8 ou 12 euros au choix du spectateur. Donc, en fait, on ne demande pas de justificatif. C'est le spectateur qui choisit son tarif en fonction de ce qu'il peut y mettre, de ce qu'il a envie d'y mettre. C'est toujours un peu gênant et désagréable d'avoir à sortir ces justificatifs de demandeur d'emploi ou de quand il y a du monde derrière. Et voilà, on trouve que c'est important aussi. Et en fait, les gens sont plutôt généreux dans l'ensemble. On est agréablement surpris.
Est-ce qu'il y a comme projet, est-ce que Dominique Rambois a comme projet de construire un deuxième théâtre en bois?
Je pense que s'il avait le budget, oui, il ferait déjà un deuxième théâtre en bois parce que voilà, il y a toujours des choses à améliorer. Puis pouvoir proposer un autre lieu comme ça qui peut bouger, aller. Donc là, on est finalement plutôt en ville, mais aussi l'idée, c'est aussi en campagne, là où il n'y a pas de lieu. Donc oui, je pense que si on lui donnait l'enveloppe nécessaire, il le ferait. Et puis surtout pour permettre aussi à des compagnies et des artistes de se produire, en fait, parce qu'il y a pas mal de compagnies qui ont de plus en plus de difficultés à être programmées dans des lieux. Et lui, son idée, c'est aussi de pouvoir laisser des spectacles à l'affiche assez longtemps, en fait. Parce qu'il regrette que les comédiens soient sans cesse en fait en train de répéter pour jouer une ou deux dates et ne puissent pas se poser et puis laisser leur spectacle donc plusieurs fois à la suite. Et il dit que c'est un plaisir énorme de pouvoir jouer. C'est là où le spectacle devient vraiment vivant, quoi. Donc, je pense qu'il reconstruirait un autre théâtre. Je pense qu'il a aussi envie là de prendre du temps pour remettre un petit peu son costume de comédien et puis pouvoir aussi remonter sur scène puisque c'est aussi ça qui l'anime. Donc voilà, je pense qu'il a en tête des projets de création pour la compagnie Entrée Publique.
Et donc après le 30 avril, le Théâtre en Bois, il va où?
Ben pour l'instant, voilà, on aimerait déjà revenir sur Angers pour l'année prochaine. Là, on est un petit peu en attente, on fait des demandes, mais on n'est pas encore fixé. On restera peut-être là, on ne sait pas pour le moment.
On attend les élections municipales.
C'est ça.
Merci Céline Goria d'avoir été dans le sous-marin.
Merci à vous.
Céline Goria dans le sous-marin donc, et on rappelle que le Théâtre en Bois vous offre 2 places pour le spectacle de votre choix. Vous envoyez un mail à journalisme@radiocampusangers.com et vous indiquez Théâtre en Bois dans l'objet du mail. Tout de suite, on va s'écouter un peu de musique, c'est Boom Shello alias Vincent Segal et Cyril Atef, Beautiful You.
without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving. And there ain't no need for no grieving, and no time for no regrets neither. See it, do it, love it, don't leave it. Carry it around with you in little pieces. Your soul releases when chilling with your peeps and sharing your theory of the universe thesis. That you didn't do for no class, at least that's not specifically asked. You gotta tell them like Jesus, it's all for the kingdom of God, in which we're just humble subjects, regardless of features, various different conjurings of creatures. And all of us to that life live the leaders. Love the eloquence of a concept perceived, preceded only by a concept conceived. Love the eloquence of a concept perceived, preceded only by a concept conceived. We're pulling from the darkness of the never world, girl. I see ya, believe ya, in your interpretation of what I'm breathing, believing, and try to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving.
Stream of thought trickling through the matter from within it coming out. Let the silence speak, hear and follow the route. Tap in and let the pen and paper take the journey without you. All is everything when walking through this track with a style. Glimpses of the moment floating, sitting, catching a while. Expanding, growing, knowing when you're grasping the now. Focus not on if I'm going slower, faster than thou. And trapped in the powerful capsule of actual sound. After the sound, I find you drastically chase after the vows. Capture profoundly, accurately while he's handing it down. Standing astounded as I see the questions, answers leap out. Keep out a moment, bring you back to what I'm rapping about. Peep out a grain of pornographs will screen a natural now, encompassing everything, dwelling in it that it surrounds, elusive as the wind, but never really absent somehow, cause we're
pulling from the darkness of the nether world, girl. I see ya, believe ya, in your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving. Pulling from the of the nether world, girl. I see ya, believe ya, in your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving.
Ils sont effrayants, je crois qu'ils aiment le sport, je crois même qu'ils en font. En tout cas, je sais qu'ils sont là pour leur journal musclé. Mesdames et messieurs, voici le journal des sports de Charlotte et Julien. Ils ont eu un week-end encore une fois chargé, avec entre autres, nos joueurs angevins, qu'ils viennent du foot, du hockey ou du basket, et vous saurez tout sur la Ligue 1 de cette semaine. Oui, ça fait beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, ils vont tout vous expliquer.
Et 1, et 2, et 3...
Non, Julien, commence pas, sinon ça peut durer encore longtemps. Vous vous souvenez sans doute du 10-0 de nos joueuses françaises contre la Bulgarie la semaine dernière. Eh bien, cette semaine, elles ont encore fait mieux. 14-0. Oui, vous avez bien entendu. On vous avait aussi parlé de Gaëtan Tinet, qui était la semaine dernière l'auteur d'un triplé. Cette semaine, elle s'est encore surpassée en marquant un quadruplé, tout comme sa coéquipière Le Sommer. Nos bleus sont donc toujours en tête du classement de leur groupe pour la Coupe du Monde. Bravo à elles.
Bon, ça ne vaut pas un 14-0, mais le SCO s'est aussi bien battu vendredi soir au stade Malherbe. Ils n'ont pas gagné, certes, mais grâce à leur match nul, ils ont réussi à prendre la deuxième place du classement ex aequo avec Lens. Un match qui avait plutôt bien commencé avec un premier but de Thomas sur coup franc de Pesali. Mais malheureusement, les Canets ont égalisé quelques minutes plus tard par un but, il faut le dire, magnifique, de plus de 30 mètres.
Sans doute le plus beau but de la soirée. Avec ce match nul, on l'a dit, Angers est deuxième, toujours derrière Metz et ses 33 points, et est donc ex aequo avec Lens avec 29 points. A noter que Metz joue son match ce soir à 20h30 contre Auxerre.
Nos ducs, quant à eux, se sont envolés vers la victoire en battant les Albatros de Brest samedi soir.
Et ça fait du bien. Après un petit passage à vide, les Angevins ont su se ressaisir. Une victoire marquée par le retour du Slovaque Baluš, qui a été l'homme du match ce samedi.
Menés en début de partie, les Ducs ont ensuite repris le dessus, même si le score restait jusqu'à la pause encore très serré. Et c'est donc Baluš qui a permis aux hockeyeurs angevins de passer d'un 3 partout à un 7-3. 7-3, c'est donc le résultat de ce match.
Un résultat qui rassure après la défaite à domicile contre Amiens et surtout qui présage de bonnes choses pour les matchs à venir. Prochain match en Ligue Magnus contre les redoutables Dragons de Rouen. Le Haras affiche déjà complet pour ce qui est un des chocs du championnat.
Mais avant ça, on les retrouve mardi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Chamonix. Espérons qu'après l'avantage pris au match aller sur la glace des Chamois, nos Ducs se qualifient pour la finale. Sans transition, on passe au basket avec un week-end difficile pour nos basketteurs.
Et voilà la deuxième défaite de la saison pour l'ABC. Nos joueurs se sont déplacés samedi à Saint-Chamond pour malheureusement perdre leur match 85-71.
Une défaite qui n'est pourtant pas catastrophique car l'ABC est toujours premier du classement avec 20 points.
Mais suivi de très près par Monaco, ex-aequo avec notre équipe, et de Saint-Chamond et Vichy avec 19 points tous les deux.
Une défaite aussi pour les basketteuses angevines. Elles jouaient contre le Hainaut samedi soir et ont perdu 72-60. Pourtant menées au début de match, nos adversaires ont su renverser la tendance après la mi-temps pour finalement s'imposer. Cette huitième défaite place nos basketteuses 13e du classement avec 12 points.
On n'en parle pas assez, mais notre équipe de roller hockey a du potentiel.
Et oui, Tiffen, nouvel exploit des Hawks qui ont battu ce week-end les champions d'Europe en titre, l'équipe de Rethel. Une victoire 4-2 qui leur permet de remonter à la deuxième place du classement. On vous encourage donc à vous rendre salle de Bussy pour les supporter, bien sûr.
Je n'ai pas besoin du ballon d'or pour savoir que je suis le meilleur. Oui, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr notre Zlatan national.
Ah, Zlatan, décidément, chaque semaine, il fait parler de lui. Le pauvre, il ne participe pas à la Coupe du Monde et il a même dit qu'il ne la regarderait pas. Décidément, il ne changera jamais.
Ibra ne sera peut-être pas ballon d'or, mais en tout cas, il nous a prouvé dimanche soir qu'il faisait partie des meilleurs. Le PSG affrontait Lyon à domicile et Zlatan a encore frappé puisqu'il a marqué 2 buts et les 2 buts sur pénalty.
Quant à Lyon, eh bien, pas de but. 4-0, une défaite qui fait mal, mais une victoire pour le PSG qui leur permet de rester premier du classement avec 37 points.
En fait, la seule façon de battre Ibra, c'est de jouer contre lui, mais sur son jeu vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, petit rattrapage auditif du grand Ibra.
C'est le vrai Zlatan ?
Il n'y a qu'un Zlatan.
Tu dois être super fort à ce jeu.
Zlatan ne perd jamais.
Bon, on va voir.
Tais-toi et joue.
Dans cette pub, il affronte en ligne un ado super fier de jouer et de battre le grand Zlatan à son propre jeu.
Bon, sinon, à part Zlatan, ce week-end, on fêtait les 602 matchs de Michael Landreau en Ligue 1. Un record qui appartenait à Jean-Luc Ettori, ancien joueur de Monaco, avec lequel il s'est échauffé avant le match, la grande classe.
Et lors de cette rencontre, Landreau n'a pas pris un seul but. Bastia a gagné 2-0 ce week-end face à Evian.
Et sinon, les Nantais ont perdu 1-0 dans le derby breton qui les opposait à Guingamp. Une défaite qui les fait malheureusement redescendre à la 6e place du classement.
Au classement, on retrouve toujours les mêmes. PSG premier avec 37 points, Lille deuxième avec 33 points et Monaco troisième avec 32 points. La SM qui a d'ailleurs gagné 2-0 face au Stade Rennais, une victoire logique sans son joueur phare Falcao.
Allez, c'est tout pour ce week-end.
Et c'est déjà pas mal.
Merci Charlotte et Julien, on vous retrouve lundi pour un prochain journal sportif. Nous, comme tous les soirs, on termine avec l'agenda de la soirée. C'est bien calme en ce début décembre. Une fois que vous aurez gobé votre deuxième chocolat du calendrier de l'Avent, vous pourrez donc, au choix, vous diriger vers le Welsh pour une soirée jeu, vers le Donald's pour un blind test musical ou vers l'Amphidias de la Cato pour une conférence sur le thème « Lire le théâtre, 5 euros l'entrée ». Voilà, il est l'heure pour nous de lâcher l'immersion. Aux manettes ce soir, c'était David et derrière les micros, Baptiste, Victor, Anne-Marie, Charlotte et Julien. Vous pouvez nous réécouter demain à partir de 13h ou en podcast sur notre site internet. Tout de suite, vous retrouvez Papyrus, l'émission littéraire de Radio Campus. Ça rime, c'est classe. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. Jeudi dernier, nous étions au Musée des Beaux-Arts à l'occasion de la soirée de la Nuit des étudiants et nous avons reçu Gus 2 pour un live délicieux. Si vous l'avez raté, on vous laisse apprécier. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Campus. On se retrouve demain, 19h. Allez, bisous.
submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Création, découverte, etc. Radio Campus, Angers.